Alors, comme vous le savez, depuis pas mal de temps maintenant, on fait les marchés avec Olivier, Dominique, tous les trois. Et puis, ce matin, je voulais rendre témoignage parce qu'à côté de notre stand, il y a un gitan. Comme quoi, ils me suivent de partout, hein, ces gitans. Il était gravement malade et tout. Cette semaine, il avait des examens très importants. Il avait des polytes et tout. Ils lui ont enlevé plein de choses à l'intérieur et tout ça. Et il pensait que c'était un cancer et tout. Et puis, ils nous ont demandé pour prier. Donc, on a tous prié. Même vous, vous avez prié. Nous, on a prié, tout ça. Et puis, hier, il nous a annoncé qu'il avait été guéri. Que le Seigneur avait agi. Donc, vous voyez que le Seigneur répond encore aux prières. Alléluia. Je vais profiter parce que Michel, il m'a dit, hier soir, il m'a dit, si tu veux, je te laisse 3 heures demain matin, si tu veux raconter ton témoignage. Alors, je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Vous savez, moi, je suis issu, comme vous le savez tous, d'une famille très nombreuse. On est 17 frères et sœurs chez nous. Et on a été élevés, bon, sous la religion catholique, hein. On a fait notre catéchisme et tout. Mais c'est vrai que les choses du Seigneur, ça nous intéressait pas du tout, hein. On n'était pas pratiquants du tout. Bon, on a fait nos premières communions, tout, hein. On a été baptisés et tout. Mais on connaissait pas le Seigneur vraiment. Et puis, je vais aller vite, hein, parce que, donc, je suis issu d'une famille, 17 frères et sœurs, je suis le 14e, et chez nous, on avait une sœur qui était chrétienne, évangélique et tout ça, elle s'appelait Annick, et je peux vous dire que, pour nous, notre sœur Annick, elle était devenue complètement folle, quoi. Elle était dans une secte et tout, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est complètement folle et tout ça. Et il y a 23 ans en arrière, j'ai eu ma fille Charlotte, et le jour de l'accouchement, ça s'est très mal passé. L'accouchement a duré plus de 14 heures et tout. Elle a accouché au bloc opératoire avec les forceps et tout. Et une semaine après l'accouchement, ma fille a fait une hémorragie méningée avec un enfoncement de la botte crânienne due au forceps pendant l'accouchement. Alors, je vous cache pas qu'elle était à l'hôpital Necker à Paris. Elle était dans un service de recherche du docteur Couder. Et c'est vrai qu'à cette époque, quand c'est votre enfant, bon, on sait pas quoi faire. Et moi, je savais pas quoi faire. J'étais partout, j'étais dans les églises catholiques pour mettre des cierges et tout. Et puis j'avais mon ex-belle-mère qui connaissait une guérisseuse. Vous savez, ça se pratique beaucoup dans les campagnes, les guérisseuses par photo. On donnait une photo de l'enfant et puis je sais pas ce qu'elle faisait. Un billet de 200 francs, hein, il fallait avec. Hein. Et puis bon, elle guérissait notre fille et tout ça. Et puis un dimanche, ma sœur Annie qui me dit, mais pourquoi vous venez pas à la réunion avec nous dans une assemblée comme ici? Mais c'était sur Évreux. Et on est allé là-bas à Évreux avec notre enfant. Vous savez, on s'est dit, qu'est-ce qu'on risque, hein? On y est allé, et on est allé dans cette assemblée-là. Puis je vous cache pas que quand je suis arrivé dans l'assemblée, c'était plein. Puis je me suis dit, mais où c'est que je suis arrivé? Je voyais des gens qui priaient, qui applaudissaient et tout. J'ai dit, ils sont complètement fous là-dedans. C'est pas possible. Ils sont fous. Qu'est-ce qu'on fait là et tout? Je tremblais de partout avec ma fille. J'avais qu'une hâte, c'était de partir. Et puis voilà, quoi. Et d'un seul coup, ma sœur a pris mon enfant, Charlotte, et puis elle l'a amené au pasteur, elle l'a présenté au pasteur et tout. Et le pasteur a fait l'imposition des mains sur Charlotte, il a prié pour elle. Alors là, dans ma tête, j'ai dit, ça y est, il y a le gourou en plus qui s'y met. Enfin, je vous cache pas tout ce qui m'est passé par la tête et tout ça. Et donc, on est parti vite fait avec ma femme et tout à l'époque. Et le lendemain, on ramenait Charlotte à l'hôpital Necker à Paris. Parce qu'en fait, il ne savait pas ce qu'elle avait. Elle était dans un service de recherche. Et le seul médicament qu'il lui donnait, c'était du Gardénal pour éviter les convulsions. Il s'est passé le lundi, s'est passé le mardi, et le mercredi matin, on a eu un coup de téléphone de l'hôpital Necker. Pourtant, on y allait tous les jours, on allait à l'hôpital et tout pour voir mon enfant et tout ça. Et donc là, on s'était attendu au pire, on pensait que c'était la fin, quoi. Et quand on est arrivé à l'hôpital Necker, le docteur Couder à l'époque est arrivé, puis il nous a dit, voilà, ça c'est tous les examens depuis que votre fille elle est chez nous, c'est-à-dire les scanners, les IRM, les résultats des ponctions lombaires et tout ça. Bon, moi, je savais pas lire tout ça. Et puis, pour nous, c'était du charabia, quoi. Et puis, elle nous dit comme ça, bah, écoutez, on comprend pas. Votre fille est guérie. Toutes les calcifications au niveau du cerveau, tout s'est résorbé et tout. Et on ne comprend pas pourquoi votre fille est guérie. On n'a même pas fait de traitement. On lui a juste donné du Gardénal et tout, qui n'est pas un médicament pour soigner. Et je vous dis pas que la joie, quoi, c'était incroyable. Alors ma sœur Annick était contente parce que elle savait que c'était la prière qu'il y avait eu le dimanche matin. Mais moi, dans ma tête, c'était pas ça. C'était la femme, la guérisseuse en Touraine. J'ai dit, oh bah tiens, ça a marché et tout, c'est génial. J'avais donné 200 francs de plus et puis un bouquet de fleurs. Et ma vie, elle a continué comme ça. Je me suis pas occupé du tout des choses de Dieu. Et moi, vous savez, j'étais un gros bringueur. Moi, l'alcool, je buvais beaucoup d'alcool, les discothèques et tout ça. J'étais un gros fumeur. Je fumais 2 paquets, 3 paquets par jour. Alors, je vous cache pas que tout ça, tout ce monde de Java et tout, j'ai eu un premier divorce. J'ai divorcé de la mère de mes enfants. Je vous cache pas que ça m'avait fait quelque chose, hein. Donc, j'ai sombré un peu plus dans l'alcool et tout ça. Et là, je ne vivais que pour les discothèques et tout ça, pour faire la Java, l'alcool. À des copains à l'apéro, j'en avais des tas et des tas. Et puis, donc, j'ai divorcé. Je me suis remarié une deuxième fois. Et quand je me suis remarié, j'étais avec une femme. C'était sympa. On a créé une entreprise et tout. Et puis, comment dire, j'avais mon petit empire parce que c'était une entreprise qui a été tout de suite, s'est montée à une vitesse pas possible. On a gagné très vite de l'argent et tout. Ça marchait très bien. Et puis moi, j'avais toujours mes problèmes avec mon alcool, hein, mes Java et tout. Hein. Tous les matins, c'était au petit bar et tout, aller boire mes Kir, aller boire mes Ricard après tout. Et puis, deuxième divorce, hein. Encore à cause de l'alcool. Vous savez, moi, l'alcool, ça a fait des dégâts dans ma vie, vous ne pouvez pas savoir. J'ai tout perdu à cause de l'alcool. De mariage, j'ai tout perdu. J'avais perdu ma dignité pendant un moment. Quand j'ai divorcé la deuxième fois et que j'ai tout perdu, je me suis retrouvé dans un bar, dans le 45. J'ai laissé dans ce bar 1 600 euros d'alcool en un mois. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Je me levais le matin, j'attaquais le Ricard tellement j'étais dans un état pas possible. Et puis je me suis retrouvé chez ma sœur en Normandie, chez une de mes sœurs, parce que à l'époque ils envisageaient même plus ou moins de me faire un petit peu enfermé dans un truc pour aller me soigner, quoi, faire en cure de désintox et tout ça. Et puis un soir, j'étais pas bien. Ma sœur m'avait confié sa maison et tout. J'étais pas bien. Je vous cache pas, j'étais prêt à faire le grand plongeon. Hein. J'étais prêt à me pendre. Hein. Et là, je sais pas, une mère, ça doit ressentir. Ses enfants, ça ressent une mère. Et ma mère, ce jour-là, m'appelle. Ce soir-là, elle m'appelle. Et puis, elle me dit, ça va, mon fils? Je dis, non, maman, ça va pas. Je dis, y a plus rien, maman. Regarde, je me saoule tous les jours. Je suis au Ricard, je suis ceci, cela. J'ai dit, je vois plus mes enfants, je vois plus personne. Je suis tout seul et tout. Et ma mère me dit, mais pourquoi tu ne vas pas à la réunion avec ta sœur? Et je suis allé à la réunion avec ma sœur, je n'avais plus rien à perdre. Je suis allé à la réunion avec ma sœur. Et ce qui était bien, c'est déjà, je suis tombé sur le même pasteur qui avait fait l'imposition des mains à ma fille il y a 10 ans auparavant. Mais par contre, il m'avait pris à part et il m'avait expliqué un petit peu comment ça se passait. Et puis il m'a demandé si voulait que je prie pour eux. Il voulait prier pour moi. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Il a prié pour moi, puis. Ça m'a fait drôle, j'avais commencé les larmes qui commençaient à tomber et tout. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive là? J'y avais pas l'habitude quand même. Pourtant, je suis un grand sentimental, mais là, non, non. Bon, il m'a dit, écoute, il y a la réunion de prière, tu vas te mettre avec ta sœur et puis tu vas voir comment ça se passe. Et puis, oh, la réunion, elle n'a pas démarré. Ça y est, ça a commencé. Je pleurais, je pleurais. J'avais les 2 yeux, on avait l'impression que c'était 2 robinets ouverts. Il y avait ma sœur qui était à côté, j'arrêtais pas de la disputer. J'ai dit, donne-moi vite les Kleenex et tout, j'en pouvais plus, c'était incroyable. J'avais l'impression que tout l'alcool que j'avais bu me faisait sortir par les yeux. Je suis sorti de la réunion et tout, je suis retourné chez mon autre sœur en Normandie. Et dans mon déménagement, parce qu'on avait déménagé dans son garage, et je vous cache pas, dans le garage, c'était un bazar, mais un truc de malade. Et je me rappelais que dans une table de nuit, il y avait une Bible. La Bible, c'était comme si elle m'attendait. Le tiroir ouvert, j'ai juste eu à prendre la Bible et tout. Et toute la nuit, j'ai lu. Puis je vais vous dire que pour que moi, je lise un livre. Moi, c'était les BD, hein, parce qu'il y avait des images, ça allait très bien. Mais les gros livres comme ça, il y en a, je ne sais pas comment ils font pour les lire. Moi, je ne peux pas. Et là, j'ai vu toute ma vie là-dedans. J'ai vu toute ma misère là-dedans. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai rigolé, j'ai pleuré. J'ai vu toute ma misère dans ce livre. Je dis, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et le matin, je me suis levé à 6 h du matin. Il y avait le plafond de la chambre, il était bleu. J'avais jamais vu ça. C'était un bleu, mais un bleu, un ciel bleu avec des petits nuages blancs. C'était extraordinaire. Je me suis levé. La première chose que j'ai fait, j'ai jeté toutes les bouteilles d'alcool dans l'évier. Et j'ai pu toucher une goutte d'alcool. J'avais été libéré instantanément. J'avais donné mes bouteilles d'alcool, je les avais, sans m'en rendre compte, je les ai données au Seigneur. Il a tout pris et il m'a libéré. Et le problème, c'est que, vous savez, j'avais perdu toutes mes capacités au niveau du travail. J'étais commercial et tout, j'ai fait de la vente et tout. J'avais tout perdu puisque l'alcool était là. Et quand tu bois, on a beau dire, tu n'as pas les neurones qui marchent correctement, hein. Et moi, c'était le corps. Hein. Et le Seigneur m'a tout redonné. Je me suis retrouvé dans des situations, dans des places, directeur commercial. J'ai fait de la formation. Jamais j'aurais cru de ma vie que je pouvais faire ce que le Seigneur m'a permis de faire. Mais il y avait un problème ce jour-là. Vous savez, l'argent, il faut s'en méfier aussi. Hein. Et moi, je n'ai pas fait gaffe. La Bible, elle était toujours sur la table de nuit. Et le problème, c'est que je ne l'ouvrais plus. Et croyez-moi, il y en a un qui est malin. Vous le connaissez, c'est Satan. Il fait tout pour te détruire. Et moi, je n'ai pas fait attention. Je suis tombé dans le piège. Le jour de mon déménagement à Arpajon, quand je suis arrivé, ce jour-là, ça a démarré. Ça a démarré par un Kir au Vino Verde. J'ai replongé dans l'alcool. J'habitais, ce bar était juste en bas de chez moi. J'ai replongé dans l'alcool encore pire que ce que j'étais avant. Je laissais entre 150 et 200 euros des fois par jour au bar. J'étais directeur commercial, je faisais mes briefings au bistrot, c'était beau. Hein. Et là, je ne vous dis pas, casser tout. Je ne payais plus mes loyers, je ne payais plus l'EDF, je ne payais plus l'eau, je ne payais plus rien en fait. C'était tout dans l'alcool, l'alcool, l'alcool et puis le tabac. Parce que 3 paquets de cigarettes par jour, il faut alimenter hein, quand même. Hein. Et là, j'ai tout perdu, je me suis retrouvé à la rue complète. C'est-à-dire que je me suis retrouvé sans mon appartement, expulsé de l'appartement, avec les dettes en veux-tu, en voilà. Procès avec mon propriétaire et tout ça. Et donc, voilà, je me retrouvais sans rien. C'est pas possible. Et je me suis retrouvé à un bar, toujours le même. Hein, au bar, il n'était pas compliqué, il était à côté de chez moi. Hein. Et je buvais des doubles ricards, parce que les petits ricards dans les bars, ça suffit pas, c'est trop petit. Alors, je buvais des doubles ricards. Et puis, il y a un gitan qui est arrivé à côté de moi. Il savait que j'avais entendu parler un peu des choses du Seigneur et il m'a pas dit 50 000 mots. Hein. Il m'a juste dit, Francis, tu vas pas rester dans cet état-là. Et là, ça m'a mis un hypercute. J'ai pensé à ma fille, j'ai pensé à mes enfants. Oh là là, ça m'a mis un grand coup dans la... Et il me dit, mais pourquoi tu ne vas pas à la Réunion ce soir, il y a une réunion chez nous, là-bas, chez les Gitans et tout ça. Et je suis allé à la Réunion. Et quand je suis arrivé dans cette réunion-là, alors je ne vous dis pas, comme ils disent, un gadjo, allez chez les Gitans, ou comme ils disent, une salle où il y a 700 Gitans, déjà qu'on n'ose pas rentrer quand il y a 4 caravanes, alors là, je ne vous dis pas. Hein. Et donc... Je suis rentré quand même, mais j'avais bu au moins 6-7 doubles ricards, vous voyez, pour me donner du courage. Le bon chrétien qui arrive à la chapelle et tout là-bas. La cigarette, j'avais l'impression que un cendrier, quoi. Et je vous cache pas que quand le pasteur a commencé à prêcher et tout, moi j'étais devant, premier rang, avec ma Bible et tout, le bon chrétien qui revient et tout. Ah là là, comment j'ai été cassé. Je transpirais sous mes vêtements. J'avais l'impression de sentir une odeur nauséabonde. Un truc horrible. J'avais qu'une hâte, c'était de sortir. Et puis je suis sorti de là vite fait. Il y avait ma sœur Annie qui, obligatoirement, qui attendait pour savoir les résultats, ce que ça avait donné. Ah, j'ai dit non, je suis en miettes, je ne peux plus. Et puis je suis retourné à Évreux. Mais là, ça a été très vite. Je suis retourné à Évreux, je me suis repenti. J'ai demandé au Seigneur pardon pour tout ce que j'avais fait et tout. Et là, tout a été d'un seul coup à une vitesse. Libéré de l'alcool, pareil. J'ai enlevé toutes les bouteilles et tout, libéré de l'alcool. Je suis passé par les eaux du baptême et tout. Et là, ce qui a été génial après, ça a été tout un tas de choses qui ont été magnifiques et tout. Ça m'a permis de vous connaître en plus, parce que c'est quand même grâce à ces gitans qu'on s'est rencontrés. Et là, j'ai été aussi, quand j'ai été baptisé, je n'étais pas libéré de la cigarette. Ah ça, la cigarette, c'était un truc, c'est vrai que c'est dur à s'en séparer de, excusez-moi pour le mot de cette saloperie, parce que c'est vraiment une saloperie. Et il y avait un pasteur. Je m'en souviendrai toujours, il prêche pour la délivrance. Et puis il dit, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a un problème avec sa cigarette, ou avec l'alcool, ou avec ses médicaments, ou avec ça, approche-toi devant, je vais prier pour toi et Jésus va te libérer. Bon, j'ai dit, après tout, s'il peut me libérer de la cigarette, ça serait pas mal quand même. Et ben, je me suis avancé par la foi et tout, il a prié pour moi. Et quand je suis sorti de la réunion, la première chose que j'ai fait, j'ai jeté mon paquet de cigarettes. J'avais 2 paquets de cigarettes tout neufs à la maison, j'ai tout jeté à la poubelle. J'ai tout jeté les cendriers et tout, et j'ai pu toucher une cigarette, ça fait 5 ans maintenant. Le Seigneur m'avait libéré de l'alcool, du tabac, il m'avait redonné la confiance que j'avais perdue en moi et tout. Et je peux vous dire que si j'avais pas eu le Seigneur, quand je suis passé par où je suis passé, parce que je peux vous dire qu'il y avait un couloir, avec toutes les dettes qu'il y a eu à gauche, à droite, les tribunaux et tout ça, le Seigneur, il m'a toujours aidé. Et il m'a toujours donné le sourire que j'ai toujours, que vous connaissez. Et ce que je vais vous dire ce matin, il faut que je laisse la parole quand même parce que c'est la parole qui est le plus important. Et ce que je veux dire ce matin, c'est, je ne sais pas, on a tous des problèmes, mais fais confiance à Jésus. Moi, j'ai fait confiance. Je ne regrette pas. Même mes propres enfants qui avant avaient de la peine parce qu'ils voyaient leur père qui buvait et tout. Si vous voyez maintenant les rapports que j'ai avec mes enfants, c'est extraordinaire. Alors aujourd'hui, si tu as un problème, si tu es lié par une cigarette ou par une bouteille d'alcool, ou si tu es par l'angoisse ou quoi que ce soit, remets ton cœur à Seigneur, tu vas voir. Tu ne vas pas le regretter. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.
Merci Francis. Je crois qu'avec avec ce que Francis nous a dit, il n'y a même plus besoin de prédication. Mais je vous invite quand même à faire une lecture dans Hébreux, la lettre aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset... chapitre 11 et verset 1. La foi, parce que beaucoup de gens disent « Oh, j'aimerais bien avoir ta foi ». C'est quoi la foi? Ben, la Bible dit « La foi, c'est une manière de posséder déjà ce qu'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui... valut aux anciens un bon témoignage. La foi, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. Ensuite, il s'ensuit que le monde visible ne prend pas son origine dans des apparences. Vous m'excusez, mais c'est pas ma version habituelle. Elle me choque un peu cette version. C'est la version œcuménique, mais elle est très très bien, c'est très très bien. Il s'ensuit que le monde visible ne prend pas son origine en des apparences. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, grâce à sa foi, il reçut le témoignage qu'il était juste et Dieu rendit témoignage à ses dons. Grâce à elle, à sa foi, bien que mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé afin d'échapper à la mort et on ne le trouva pas parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, en effet, il avait reçu le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute la bénédiction dans cette parole que je vous apporter ce matin. Oh, mais des gens contestent en disant, mais comment alors, faut avoir foi en Dieu, il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi, qu'est-ce que c'est ça? N'oubliez pas, mes frères et sœurs, que nous sommes créés à son image et que si vous venez vers moi et que vous vous méfiez de moi, je vais le ressentir très rapidement et ça ne va pas être très agréable pour moi. Non? Si quelqu'un s'approche de vous en vous disant, bonjour, mais je ne vous fais pas trop confiance, vous savez, bon, c'est terrible, c'est insultant. Eh bien, c'est la même chose. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons ce sens, n'est-ce pas? Et c'est normal. Si on s'approche de Dieu, ben, c'est normal qu'on s'approche de lui avec foi, avec confiance, le mot confiance. Un jour, il y avait une grande fête religieuse à Jérusalem. Et vous savez, les fêtes religieuses, c'est très joyeux là-bas. Hein? Moi, je les ai vus danser devant le mur des Lamentations. C'est magnifique. On dit le mur des Lamentations, mais ils dansaient là. C'est extraordinaire. Donc, il y avait une grande fête religieuse, la Bible nous dit, et Jésus a quitté la foule joyeuse pour aller à la recherche des plus démunis. Ce jour-là, il a trouvé ses démunis à Bethesda, vers une piscine, près de la porte des brebis. C'est là qu'il s'est rendu parce que tout le monde savait que les affligés, les gens qui étaient dans l'affliction, ils allaient là-bas. Et l'évangile de Jean nous dit que près de cette piscine, il y avait un grand nombre de malades qui étaient couchés, qui attendaient, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient. Ils attendaient quoi? Ils attendaient le mouvement de l'eau. L'Écriture ajoute parce qu'il y avait un ange qui de temps en temps descendait et remuait l'eau. Et le premier qui se jetait dans l'eau était guéri. Jésus arrive là et il est venu pour aider discrètement les gens qui ne pouvaient pas s'en sortir tout seuls. Il y avait là un malade qui était recroquevillé, qui était par terre, qui était dans l'ombre, certainement dans un petit coin sombre pour pouvoir avoir un peu quand même de fraîcheur. Il fait très chaud là-bas. Il était épuisé, démoralisé d'avoir été affligé par cette maladie, cette paralysie, cette infirmité. Depuis 38 ans, nous dit les Écritures, c'était un drame pour lui. Et Jésus le regarde et lui pose une question pénétrante. Veux-tu être guéri? Je suis toujours surpris quand nous avons des réunions de guérison, miracles, il y a des gens, ils ne veulent pas être guéris. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Il y en a, ils ne veulent pas être guéris parce qu'ils peuvent continuer à toucher leur... comment on appelle ça ? Voilà, vous m'avez compris. Mais vraiment, j'en ai connu depuis 45 ans que je prêche l'évangile, j'en ai vu de toutes les couleurs. Des gens qui ne veulent pas être guéris parce que leur maladie, c'est le seul moyen qu'ils ont pour exister aux yeux des autres. S'ils n'avaient pas ça, ils n'auraient plus rien du tout. Vous avez toutes sortes. Le cœur de l'homme est tortueux. Et si Jésus dit ça à cet homme, veux-tu être guéri, ce n'est pas pour se moquer de lui. Moi, il me semble que, oui, bien sûr, je veux être guéri. Ben non, pas forcément. Pas forcément. Jésus lui pose la question. Vous voyez cette gentillesse, cette délicatesse. Veux-tu être guéri? Et l'homme répond, mais je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'essaye d'y aller, il y en a un autre qui se jette dans l'eau. Puis voilà, ça se passe comme ça. Alors, au problème très apparent, qui a l'air très, très, absolument, complètement insoluble, eh bien, Jésus offre une réponse profonde et complètement inattendue. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, la Bible nous dit, cet homme s'est levé, il était guéri, il a pris son lit et il a marché. Luc nous raconte qu'un autre jour, alors qu'il était en chemin pour aller à Jérusalem, il y a dans un petit coin retiré 10 lépreux qui sont là et qui attirent son attention. Ces lépreux se tenaient à distance parce que c'était à l'époque, on les considérait comme des parias, comme des impurs, comme des indésirables. Et puis, voilà qu'il se met à, crier, « Seigneur, Dieu, aie pitié de nous, Maître, aie pitié de nous !» En d'autres termes, ça veut dire, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour nous? Ils avaient entendu parler que Jésus faisait des choses extraordinaires. Alors, Jésus, le grand médecin, savait que la foi doit précéder le miracle. Alors il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Mais il n'était pas guéri. Vous avez déjà vu, moi j'ai vu des lépreux. Il n'était pas guéri. Et leur acte de foi, c'était d'aller se montrer au sacrificateur pour faire constater leur guérison, selon la loi de Moïse. Mais ils n'étaient pas guéris. C'était un acte de foi que Jésus leur demandait de faire. De faire une chose idiote. Il fallait vraiment avoir la foi. Et ils l'ont fait. Ils sont partis sur le chemin. Alors qu'ils étaient en chemin, la Bible nous dit que le miracle s'est produit. Imaginez la joie de ces 10 hommes. Quand ils ont vécu en temps réel leur guérison, qu'ils ont vu ces choses disparaître de leur corps, leur peau purifiée, les membres, c'est magnifique. J'ai vu l'émotion des gens qui vivent des miracles. J'ai vu des paralytiques bouleversés parce que tout à coup ils se mettaient à marcher, puis ils regardaient leurs jambes. J'ai vu des aveugles qui dévoraient tous des yeux parce qu'ils avaient retrouvé la vue. J'ai vu, je connais ce que c'est quand quelqu'un se trouve dans cette joie. Vous en avez, ils sont... Quand ils sont guéris, ils sont comme stupéfaits et ils ne bougent plus, ils ne disent plus rien. Mais c'est après que ça se manifeste. C'est quelque chose, c'est profond, c'est immense quand on reçoit une guérison. Ces 10 hommes ont vécu quelque chose de fantastique. Et l'un d'eux, se voyant guéri, il a fait demi-tour, il est revenu sur ses pas en glorifiant Dieu. La Bible nous dit à haute voix, c'est une espèce de pentecôtiste. En criant, en louant le Seigneur, il arrive vers Jésus, il tombe la face contre terre devant Jésus, il le remercie, il est dans la gratitude. Et Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas, je t'ai sauvé, il dit, ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ est le médecin du corps, de l'intellect, de l'esprit. Et la guérison qu'il opère commence avec la foi. Je me souviens du jour où Jésus a guéri mon pied, j'étais malade, j'avais une gangrène, et c'est grave. Je me souviens de la joie que j'ai eue quand tout à coup mon pied est devenu blanc. Ça m'a fait une douleur, j'ai ôté ma botte de soutien, j'ai regardé, mon pied était blanc, et j'étais guéri, et je me rappelle, je me vois toujours, c'était sous un chapiteau, c'était à Metz, courir avec ma botte et ma chaussette sous ce chapiteau pour aller louer Dieu, pour montrer à tout le monde. Je me souviens encore plus de la joie ce soir où, en, En juin 68, j'ai su que vraiment Jésus m'aimait, moi. Et qu'il pardonnait mes péchés. C'est une joie. Si vous avez perdu cette joie, vous pouvez la retrouver ce matin. Si vous avez perdu cette joie, vous pouvez la retrouver ce matin. Il se peut que le diable ait sapé votre vie. Comme tout à l'heure, Francis nous a dit, j'ai pas fait gaffe. Et puis il a sapé votre vie, et puis vous êtes de nouveau dans la tristesse. Mais ce matin, il peut vous rendre votre joie. Jésus nous enseigne comment être guéri. Il nous enseigne comment être complet. Il dit, si vous venez à moi, alors venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, prenez mes instructions, mes instructions. On ne peut pas avoir la foi en Jésus si on ne connaît pas ses instructions. On peut avoir une foi sentimentale, mais elle n'est pas basée sur la réalité. La réalité, c'est ses instructions, ce qu'on trouve dans la Bible. Amen. Amen. Prenez sur vous mon joug, c'est-à-dire que c'est vrai que ça pèse un peu aussi. C'est vrai que ça n'est pas facile non plus. Quand on quitte, il a quitté le monde, il a quitté l'alcool, il a quitté tout ça. Et il a eu un joug qui était sur ses épaules et Dieu a enlevé ce joug, mais Jésus a mis son joug dessus. C'est-à-dire que maintenant, il a quand même, c'est pas la liberté, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il a un joug. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Oui, c'est vrai, mes frères et sœurs. Il y a quand même quelques difficultés à suivre Jésus-Christ. Notre chair ne veut pas suivre Jésus-Christ tout le temps. Elle a des revendications. Jésus, prenez mon joug sur vous et prenez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est vrai qu'il y a un fardeau, mais il est léger. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le fardeau que le diable met sur la vie des gens. Jésus dit aussi, viens et suis-moi. Il nous invite à laisser derrière nous notre ancienne vie, nos désirs futiles, et il nous invite à devenir une nouvelle créature. En Jésus-Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Nous pouvons naître de nouveau. Nous pouvons devenir des nouvelles créatures pour qui les choses anciennes sont passées. Ce n'est pas moi qui l'invente. L'apôtre Paul le dit très clairement et je le vis depuis ce fameux 1er juin 68. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Et chaque jour, il y en a un peu plus. Quand on dit ça aux gens, la plupart du temps, ils nous disent « Mais c'est quoi cette fausse monnaie que tu essaies de me servir là ?» C'est vrai qu'il n'y a de la fausse monnaie que parce qu'il y a de la vraie monnaie. C'est à vous de discerner si ce que je dis est vrai ou pas. Jésus dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. » Il est déjà venu. C'est Dieu venant dans un corps de chair, s'humiliant en prenant notre corps de chair, nos limitations. Il est déjà venu. Il a inspiré des hommes qui ont écrit tout ce qui est nécessaire à notre foi. Ça a traversé les siècles, les millénaires. Et maintenant, c'est à nous de nous approcher de lui. Et si nous nous approchons de lui, il s'approche aussi de nous. Cherchez-moi avec diligence. Et vous me trouverez. Mais il faut quand même se donner un peu de peine. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Quand on s'approche de lui, nous comprenons pourquoi notre condition mortelle doit être difficile. Beaucoup de gens disent, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de misère. Mais s'il y avait un Dieu ceci, et s'il y avait un Dieu cela. Parce que quand on vient vers Jésus, quand on prend sur nous son joug, quand on décide de le suivre, de marcher au pas avec lui, vous savez, un joug, on le met, et c'est pas en général, on est deux à tirer sur un joug. Eh bien, quand on décide de marcher au pas avec le Seigneur Jésus, il prend soin de nous enseigner au sujet de son plan. Et on commence à comprendre pourquoi il y a de l'opposition en toute chose. Il nous l'explique. On trouve ces enseignements dans les Saintes Écritures. Ça ouvre notre intelligence. Et ça nous permet d'avoir un comportement beaucoup plus positif dans cette vie parce qu'on comprend le pourquoi. Il n'y a aucune faille dans le plan du salut. L'opposition Au contraire, c'est l'élément indispensable à la condition mortelle qui fortifie notre volonté et qui affine nos choix. On n'est pas des robots et Jésus arrive avec une baguette magique, tic, il nous change et puis tout est bleu ciel et puis il n'y a plus de problème et tout est merveilleux. Non, nous avons notre dignité. Il nous apprend, il nous met au courant des choses. Et alors on sait pourquoi et on sait comment et on peut vivre avec la paix dans le cœur même au milieu des afflictions. Jésus a institué la Sainte Cène en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». En prenant le pain et le vin, nous nous souvenons de Jésus et de ses enseignements. Pas simplement de Jésus, d'une espèce d'idée qu'on se fait au sujet de Jésus. Était-il blond, était-il brun? Ses enseignements. Nous nous souvenons que nous sommes guéris en abandonnant les habitudes. Nous sommes guéris en abandonnant les modes de vie qui endurcissent le cœur. En abandonnant ces habitudes et ces modes de vie qui raidissent notre cou, qui fait de nous des arrogants devant Dieu. Je me dis toujours, quand j'entends parler de certaines personnes au sujet de Dieu, je dis, mon Dieu, mais quand ils vont arriver devant ton trône, mais la tête qu'ils vont faire. Toutes ces horreurs qu'ils osent dire. Quand nous abandonnons ces habitudes et ces modes de vie qui raidissent notre cou, qui nous rendent orgueilleux et stupides finalement devant la face de Dieu, eh bien nous laissons la place au Saint-Esprit de Dieu qui est un esprit vivifiant et qui nous élève. Et pour pouvoir être élevé par Dieu, il faut un minimum d'humilité. Au commencement, il faut s'abaisser. Beaucoup de gens veulent comprendre avant de croire. Eh bien, c'est tout faux, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut croire d'abord, tu comprendras après. C'est Dieu qui pose ses exigences. C'est comme ça. Quand nous déposons nos armes, notre rébellion, c'est là qu'on agit vraiment par nous-mêmes. Parce que tant qu'on ne dépose pas nos armes, eh bien, on n'agit pas par nous-mêmes, on est manipulé. Vous ne le savez pas? Mais on est manipulé dans ce monde. Les gens ne croient plus au diable. C'est la plus belle ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et les gens sont manipulés. Mais quand quelqu'un décide de déposer les armes de la rébellion en disant « Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux prendre ton joug sur moi. Seigneur, je veux prendre tes instructions. Je veux marcher selon ta volonté. Je veux faire ta volonté. » Alors à ce moment-là, nous ne sommes plus aveuglés par les sophismes de Satan. Quand nous nous décidons de prendre Jésus pour maître, ah, Jésus le sauveur, oui, mais le maître aussi. Quand nous nous décidons de prendre Jésus pour maître, nous agissons vraiment par nous-mêmes. Parce que là, nous ne sommes plus aveuglés par les raisonnements qui sont logiquement corrects en apparence, mais qui sont conçus par Satan avec l'intention de nous nuire, de nous induire dans l'erreur. Croyez ou vous ne croyez pas? Décidez. C'est vous qui décidez. Quand nous nous repentons, notre culpabilité est balayée. C'est un miracle. C'est Jésus qui guérit notre âme. C'est Jésus qui fait ça. Alors la question, elle est, mais comment est-ce que ça peut arriver? Comment est-ce que cela peut-il se faire? Jésus dit, c'est à cause de ta foi. Va. Ta foi t'a sauvé. C'est à cause de ta foi. Va, ta foi t'a purifié. Ça commence par la foi, par la confiance. Pas dans Michel Janton, mais dans la parole de Dieu. Et si ce que je dis aujourd'hui n'est pas selon la parole de Dieu, ne croyez pas ce que je vous dis. Mais par contre, si ce que je vous dis vient de la parole de Dieu, croyez ce que je vous dis. Jésus veut te guérir en te commandant d'aimer ceux qui t'ont fait du mal. Mais l'amour, ça ne se commande pas. Ah, ça, c'est encore une erreur que le diable essaye de faire passer partout. Aime ton prochain, c'est un ordre. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'amour, ça ne se commande pas. Si tu commences à croire, comme Jésus dit de vivre, eh bien, il va venir à ton aide, il sera avec toi pour te donner la force de pardonner, même jusqu'à arriver à oublier Il va aussi utiliser le facteur temps pour l'oubli. On n'oublie pas ça comme ça, mais on peut déjà pardonner, être en paix avec. C'est-à-dire que chaque fois que tu rencontres la personne ou les personnes qui t'ont blessé dans ta tête, eh bien, ce n'est plus la guerre, c'est que Dieu bénisse cette personne, que Dieu pardonne. Moi, je pardonne. Et tu es en paix. Mais ce n'est pas ça le bonheur, c'est d'être en paix. Jésus veut te donner ça. Pourquoi dire non? Ça me fait penser à un prisonnier à qui on viendrait dire, ben voilà, il y a quelqu'un qui a décidé de payer ta peine à ta place, alors tu es libre. Et qui dirait, ben non, moi je ne peux pas croire une chose pareille, je reste dans ma prison. Vous comprenez? Jésus veut faire cela pour toi. Ne vas-tu pas le prendre? Mais il faut la foi. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend, nous dit la Bible. Et vous entendez ce matin. Prenez ce que je vous dis. Croyez ce que je vous dis. Décidez de mettre cela dans votre vie véritablement. Ce pardon te guérira. Dieu le sait. Et il t'enseigne ça ce matin. Alors, comme malade de la piscine de Bethesda, je te pose, et Jésus te pose cette question pénétrante et inattendue. Veux-tu être guéri? Il y a une vie qui soutient ceux qui se trouvent dans la difficulté, ou ceux qui sont affligés par la douleur, par la souffrance. Il y a une vie, l'auteur de la vie, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Tu peux trouver toutes sortes de trucs, de consolation, mais tu ne trouveras jamais la profondeur, la réalité ailleurs qu'en Jésus-Christ. Si vous vous sentez impur, si vous vous sentez malheureux, si vous vous sentez indigne, rappelez-vous que Jésus est le divin guérisseur. Remettez-vous avec foi et avec patience. Rappelez-vous de ces lépreux à qui Jésus a dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et ils sont partis se montrer au sacrificateur et c'est seulement en chemin qu'ils ont été guéris. Foi et patience. Remettez votre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Croyez qu'il est bon et qu'il a un calendrier, et qu'il a quelque chose pour vous dans le temps et il a un dessein pour vous. Et il vous demande simplement, il vous dit simplement, ne crains pas, mais crois seulement. Crois seulement. On va le chanter tout à l'heure, c'est un chant magnifique. Vous pouvez être assuré que le Sauveur continue encore aujourd'hui à guérir, encore aujourd'hui à guérir. Aujourd'hui, il n'est pas dans les grandes fêtes religieuses. Il les a quittées pour venir aider des malheureux ici. Oh, c'est pas la piscine de Bethesda ici, mais bon, il est ici. Si tu es malheureux, il te rencontre ce matin. Et aujourd'hui, il est là et il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre ta porte. Comment? Eh bien, en recommençant à prier. Ouvre ta porte en te repentant, en décidant de pardonner, en demandant à Dieu de l'aide, en décidant, voilà, je vais rendre des services. Si quelqu'un me force à faire quelque chose, eh bien, je vais faire le kilomètre plus, je vais faire le double. C'est ça, ouvrir la porte, c'est dire, voilà Seigneur, c'est toi qui as raison, c'est pas moi. Le paralytique à la piscine de Bethesda, les 10 lépreux qui ont été guéris, et moi-même guéri aussi de mon pied, et combien d'autres? On peut vous dire, de la part de Jésus, lève-toi et marche. C'est-à-dire, va de l'avant, reste pas comme ça. Comme le gitan a dit à Francis, tu vas pas continuer comme ça quand même. Lève-toi et marche, va de l'avant. Sa grâce est suffisante. Sa grâce est suffisante. Et puis vous ne marcherez pas tout seul. Vous aurez toujours Jésus avec vous. Et puis vous aurez l'Église aussi avec vous. Je peux vous dire, mes frères et sœurs, j'ai la connaissance que Jésus-Christ est vivant. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il vous aime. Il vous aime pour ce que vous êtes et il vous aime pour ce que vous allez devenir. Alors faites-lui confiance. Vous ne serez jamais déçus. Il a le pouvoir de vous rendre pur, il a le pouvoir de changer votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier un moment pendant que les musiciens s'approchent. Véritablement.